International.
RFI 9h30, à Paris 7h30, en temps universel. Le journal, Xavier Besson.
Et à la une, ce qui est l'une des plusieurs initiatives de paix pour l'Est de la République démocratique du Congo. Où en est-on dans les discussions entre la RDC et le Rwanda sous l'égide des États-Unis? Washington qui souhaite arriver à un accord d'ici la fin du mois. On fait le point dans un instant. Dans ce journal également, reportage à Libreville. Au Gabon, la capitale, théâtre de plusieurs opérations de déguerpissement ces derniers jours. Certains habitants ont tout perdu et assurent qu'ils n'ont pas été indemnisés. On vous raconte aussi cette méthode efficace mise en place en Afrique du Sud pour faire chuter le braconnage des rhinocéros. Et dans une dizaine de minutes, vous retrouverez Victor Missistrano, le journal des sports, en ce week-end de match amicaux pour de nombreuses sélections africaines de football. Si l'on s'en tient au calendrier de la médiation américaine, il ne reste plus que 3 semaines pour parvenir à un accord de paix entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Au mois d'avril, les deux pays ont signé une déclaration de principe et aujourd'hui, ces négociations sont encore en chantier. Où en est-on réellement dans ce processus? On fait le point avec Patient Ligaudy.
Depuis le 25 avril, date de la signature de la déclaration de principe à Washington, les choses avancent mais prudemment. Un premier projet d'accord ou draft avait été rédigé en s'appuyant sur les bases des négociations menées à Luanda sous médiation angolaise. À cela se sont ajoutées des contributions nouvelles issues des attentes de Kinshasa et de Kigali. Aujourd'hui, c'est un deuxième document de travail, une version révisée qui circule entre les parties. Ce texte devrait servir de base aux prochaines discussions. Selon nos informations, des délégations techniques congolaises et rwandaises sont attendues à Washington la semaine prochaine. Objectif, défendre leurs positions respectives avant d'envisager une rencontre formelle entre les ministres des Affaires étrangères. Mais dans la région, la prudence reste de mise. Après les échecs passés, plusieurs diplomates insistent, il ne faut pas se précipiter. Il faut, je cite, aller au fond de choses, consulter tous les acteurs et aboutir à un accord qui tienne dans le temps. Un autre diplomate occidental en poste à Kinshasa ajoute que Washington doit aussi accompagner les dynamiques locales et sous-régionales déjà en cours. Pour lui, il faut éviter que ce processus ne soit perçu comme un schéma imposé de l'extérieur.
Patient Ligaudy, la RDC, où au début de la semaine, le CESAC, le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, a décidé de suspendre la médiatisation des activités du parti politique de Joseph Kabila et de ses membres pour une durée de 3 mois. L'ancien président, qui est soupçonné par les autorités congolaises de lien avec les rebelles de l'AFC M23. Attention à ne pas se substituer justement aux autorités, réagit ce matin l'UNPC, Union nationale de la presse du Congo, qui émet de sérieuses réserves quant à la compétence du Conseil en la matière et qui dénonce même une censure qui ne dit pas son nom. Kamanda Wakamanda Muzembe est le président national de l'UNPC.
On demande au CESAC de rester dans ses prérogatives et non d'empiéter sur l'autorégulation que nous représentons. Ce n'est pas de son ressort d'empêcher la médiatisation des activités d'un parti politique parce qu'il y a le ministère de l'Intérieur qui peut prendre des décisions administratives quand il y a une dérive dans le comportement d'un parti politique. Il y a aussi la justice qui a ses prérogatives et qui doit prendre une décision. C'est pas au CESAC de décider comme ça en lieu et place de ceux qui ont dans leur rôle le prérogatif de sanctionner un parti politique ou sanctionner des acteurs politiques. Bon, c'est une censure qui ne dit pas son nom, mais c'est une façon d'interdire de parler. Il faut couvrir les activités de tous les partis politiques, mais on ne va pas faire leur propagande. Les journalistes doivent respecter l'éthique et la déontologie. C'est ça, on veut absolument que chacun joue son rôle.
Kamanda Wakamanda Muzembe, le président de l'Union nationale de la presse du Congo, joint à Kinshasa par Amélie Tulé. Il s'agit officiellement de laisser la place à une cité administrative et à un boulevard, le futur boulevard de la transition. Au Gabon, à quel prix lutte-t-on contre les embouteillages et aussi contre le mal logement? Libreville, la capitale, depuis avant-hier, est le théâtre de plusieurs opérations de déguerpissement et de démolition. L'État gabonais assure que tous ceux qui devaient l'être ont été indemnisés, mais sur place certains contestent et le travail des engins de chantier leur est difficile. Reportage d'Yves Laurent Goma.
Suzanne est inconsolable.
En quelques minutes, une tractopelle a écrasé sa maison où elle vivait depuis 15 ans. Au sol, il reste un amas de béton, planches et tôles.
C'est à 15 heures que la gendarme est venue nous dire de libérer les maisons. On était obligé d'abandonner certains effets dans la maison.
Ça me fait pleurer, je suis née ici, j'ai grandi ici, c'est normal en fait. C'est normal de pleurer.
On ne refuse pas de partir, on ne refuse pas de quitter le quartier. On veut juste les mesures d'accompagnement.
Patrice Nguemavé, 60 ans, a perdu plusieurs maisons qu'il faisait louer à des commerçants.
Mon cœur est meurtri. Et mes enfants, et mes petits-enfants. Que vais-je faire ?
L'administration soutient que tout le monde a été indemnisé. Faux rétorquent les victimes.
Il n'y a aucune liste qui prouve que les gens qu'on démolit actuellement ont tous été indemnisés. C'est catastrophique. Et nous implorons la magnanimité du chef de l'État. Les mêmes bulldozers qu'on a envoyés ici pour détruire nos maisons, ils peuvent prendre ces bulldozers, terrasser une forêt et attribuer à tout un chacun 20 mètres carrés. C'est le minimum.
Face aux critiques, Laurence Ndan, ministre porte-parole du gouvernement, a expliqué pourquoi ces casses.
Cette opération a pour ambition de réduire de manière significative les embouteillages, les inondations et de lutter contre le mal logement.
D'autres quartiers seront aussi concernés, a averti le ministre. Yves-Laurent Goma, Libreville, RFI.
Eux, c'est leur forêt qu'ils souhaitent pouvoir réintégrer. Nous sommes au Kenya, où la communauté OGIEC a saisi la Cour africaine des droits de l'homme, au sujet donc de la forêt de Mao, dans le sud-ouest du pays, forêt dont ils ont été expulsés à plusieurs reprises ces dernières décennies, et dont ils essayent de récupérer légalement la jouissance, un processus qui prend du temps, puisque la Cour s'était déjà prononcée en leur faveur en 2017. Correspondance de Gaël Lalex.
La décision de la Cour d'Arusha implique notamment la restitution de terres aux OGIEC et une compensation financière d'environ 1 300 000 dollars pour les préjudices subis. Des mesures que le gouvernement kényan rechigne à mettre en place. Pire, selon Albert Baroumé, rapporteur spécial des Nations Unies pour les droits des peuples autochtones, les autorités kényanes ont même recommencé à clôturer la forêt. Cette démarcation menace les droits de plus de 8 500 OGIEC, écrit-il dans un communiqué. La spoliation des OGIEC dure depuis la colonisation. Aujourd'hui, les autorités kényanes les accusent de participer à la déforestation en coupant du petit bois de chauffe. La forêt de Mao est cruciale pour l'économie de la région. Elle représente notamment un réservoir d'eau naturelle pour les terres arables alentour. Le mois passé, lors de l'inauguration de l'aéroport de Narok, capitale du comté, le président William Ruto a remis un titre de propriété aux autorités locales, assurant mettre ainsi un terme au conflit autour de la forêt. La Cour africaine des droits de l'homme, quant à elle, s'est retirée pour délibérer. Dans un communiqué, la communauté OGIEC se dit optimiste. Gaël Alex Nairobi, RFI.
À Nairobi, où il est 10h37, 2 heures de moins. Au Maroc, question de terre, de propriété également. Dans le royaume chérifien, Rabat force-t-il des déplacements de population dans les zones qu'il contrôle, dans la région du Sahara occidental, région contestée. Cette semaine, un rapport des Nations Unies met en garde contre les violations des droits du peuple sahraoui. En cause une vaste opération de destruction ces dernières années, dans le but de laisser la place à différents projets immobiliers ou énergétiques, nous explique Ouda Ibrahim.
Les rapporteurs de l'ONU reprochent au royaume chérifien de forcer les détenteurs de biens sur la côte atlantique du Sahara occidental, une zone concernée par le référendum sur l'autodétermination, à se déplacer. Selon le rapport, des centaines de maisons ont ainsi été détruites ou incendiées en bord de mer entre 2022 et 2024. Les terrains des propriétés privées ont été confisqués, des projets touristiques et dans le domaine de l'énergie verte sont en cours de réalisation dans cette zone, indique le rapport de l'ONU. Les rapporteurs notent également une dégradation nette des droits humains avec la multiplication des intimidations et d'oppressions sur les habitants. Dans une lettre adressée au Palais Royal marocain, l'ONU demande des explications sur ces agissements, appelant le Maroc à respecter ses engagements au niveau de droits humains et du droit international. Les rapporteurs demandent aussi au Maroc de garantir au peuple sahraoui son droit à l'autodétermination. Face à ces actions, les défenseurs des droits de l'homme au Sahara occidental accusent Rabat de vouloir y changer les données démographiques en encourageant les Marocains à s'y installer.
Dans l'actualité ce matin également, des pays africains, le Mali, où le groupe Wagner annonce son départ, des paramilitaires russes qui laissent la place à un autre groupe de mercenaires considéré comme plus proche du Kremlin et des autorités de Moscou, un groupe prénommé Africa Corps. On en parle plus en détail dans le prochain journal Afrique dans une heure. Le Togo À Lomé, un important dispositif de sécurité était déployé hier à l'occasion de rares manifestations dans la capitale contre le régime de Fornia Simbé. Le Togo, par ailleurs, où l'avocat du rappeur Amron, cet artiste connu pour ses positions critiques envers le régime, son avocat affirme qu'il a été emmené à l'hôpital psychiatrique après son arrestation à la fin du mois de mai. Depuis, Amron était apparu dans une vidéo dans laquelle il s'était excusé, vidéo réalisée sous la contrainte, affirme son avocat. Enfin, avant de retrouver Julien Coquelroem pour la suite des RFI Matin, direction l'Afrique du Sud, avec cette méthode qui a fait ses preuves contre le braconnage. Le parc Kruger a réussi à diviser par 5 les atteintes contre ces rhinocéros, tout simplement en coupant leurs cornes, qui est la partie la plus recherchée de leur anatomie, utilisée notamment en médecine traditionnelle asiatique. Précision et explication avec Igor Strauss.
En Afrique du Sud, au moins 34 rhinocéros sont tués chaque mois, selon le ministre de l'Environnement, dans un pays qui comptait encore 16 000 rhinocéros à la fin de l'année 2023. Mais ni les 74 millions de dollars dépensés entre 2017 et 2023 pour protéger cette espèce, ni le déploiement d'éco-gardes n'a empêché cette chasse illégale. Au cours de cette période, près de 2 000 rhinocéros ont été braconnés pour leurs cornes, considérées à tort comme aphrodisiaques dans de nombreux pays asiatiques. En revanche, l'écornage de plus de 2 000 rhinocéros s'est traduit par une réduction de 78% du braconnage. Et l'étude souligne que les effets de l'écornage sur la biologie des rhinocéros ne sont toujours pas clairs, mais que cette pratique n'a aucun impact sur leur survie et leur reproduction. Cependant, précisent les chercheurs, il faut procéder à un écornage régulier, car la pauvreté incite un grand nombre de personnes vulnérables à rejoindre des organisations criminelles pour braconner. Ainsi, des rhinocéros écornés ont été abattus par des braconniers ciblant leur moignon et la repousse de leurs cornes. Sur le marché noir, le prix de la corne de rhinocéros est proche de celui de l'or et de la cocaïne.
À Johannesburg, il est maintenant 9h42. Passez une excellente journée à l'écoute des RFI.